plus. Jeux gratuits uniquement, joués de manière responsable.
Marceau, le matin.
On est 16 avril 2026, vous êtes dans le show du matin, ça s'appelle Marceau le matin, mais Marceau le matin, c'est aussi Jeff Fortin qui travaille extrêmement fort. Vous avez Max qui est à la circulation, aux nouvelles et au sport, ainsi qu'au karaoké, une fois de temps en temps, peut-être un jour, qui sait. On est avec vous jusqu'à 10h, si vous voulez nous rejoindre, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021, circulation, mon ami.
Pas mal l'heure de pointe habituelle, secteur des ponts, sinon Capitale-Ouest, entre Seigneurial et Laurentienne, des ralentissements. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, comme d'habitude. Henri 4 Sud entre Sainte-Geneviève et Chauvre-Ouest.
Merci beaucoup. On va aller le rejoindre tout de suite. Victor Henriquez qui est branché, puis pas possible. Quand je parle de Victor Henriquez, c'est pas juste un analyste politique, c'est pas juste un chroniqueur politique, c'est aussi mon psychologue, parce qu'il m'aide à comprendre des fois l'essence de la vie. Victor Henriquez, salut! Comment ça va?
Ça va, vous autres, comment ça va?
Oui, ça va. J'ai de la misère à comprendre comment fonctionne l'électorat canadien, l'électeur québécois. On a un Mark Carney qui est quasi absent du Canada, qui a été élu parmi l'une des personnes les plus influentes sur la Terre, selon le magazine Time. Mm-hmm. Et au Québec, ben, on a un sondage Palace Data qui est sorti hier, où Charles Milliard, qui fait juste faire des sourires, trône au sommet des sondages. Explique-moi comment fonctionne l'électeur moyen, parce que honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés avec leur choix.
D'abord, l'électeur moyen, il y a deux choses. Hein. Il répond à des sondages sur les émotions, mais quand il vote pas nécessairement sur les mêmes bases. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut se rappeler, parce qu'on commente maintenant les sondages préélectoraux et jusqu'en octobre prochain, on va tous faire des scénarios. Puis ils vont tous bouger ces scénarios-là. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut se rappeler. La deuxième, c'est oui que voter, c'est un geste émotif, mais c'est un geste aussi qui est là pour nous rassurer. Et lorsque tu regardes, par exemple, le résultat dans Terrebonne, tu regardes que les gens en ce moment votent par rapport au contexte. Et c'est pour ça qu'on a souvent dit que dans l'histoire du Québec, et là, je vais t'expliquer la situation de Charles Millard, dans l'histoire du Québec, quand l'économie va mal, les libéraux sont élus. Parce que la façon de gérer des libéraux rassure les Québécois. Et les Québécois, dans cette période un peu particulière, où est-ce qu'on a un président Trump qui influence la planète au complet, où est-ce qu'on a aussi un gouvernement fédéral qui est très stable maintenant, qu'il est devenu majoritaire, les Québécois vont avoir un choix à faire et on va se demander sur quoi ils vont se baser. Est-ce qu'ils vont se baser sur l'inspiration, sur l'avenir, sur cette vision qu'ils ont eue très positive de Paul Saint-Pierre-Plamondon pendant des années, parce que ça fait quand même 4 ans qu'ils trônent au sommet des sondages, ou est-ce qu'ils vont aller vers quelque chose de peut-être un peu plus calme, un peu plus drabe, diront certains, mais avec une vision un peu plus comme celle de Charles Millard, comme tu dis, qui ne dit pas grand-chose à ce moment-ci, mais qui a l'air calme, qui a l'air posé, et qui a l'air de tout le contraire de ce qu'on voit au sud de la frontière, par exemple.
Parce que depuis que Mark Carney est au pouvoir, moi, les choses qui m'entourent ne se sont pas améliorées. Il n'y a rien qui s'est amélioré. La guerre avec Donald Trump, l'autre côté, ça ne s'est pas amélioré non plus. Puis pour ce qui est de Charles Milliard, moi, je le connais bien. J'ai eu la chance de lui jaser quelques fois. Je l'apprécie, mais je ne pense pas que la personne qui, je ne sais pas, moi, travaille au bureau, en gros, juste à côté de la station, le connaissent comme moi je le connais. Fait que techniquement, il n'y a pas rien changé à la vie de cette personne-là qui travaille au bureau en gros, mais cette personne-là dit « Ben, je vais voter quand même pour Charles Milliard. » Il a de l'air d'un personnage rassurant. Fait que des fois, je me pose des questions. Mettons qu'on parle de Mark Carney, là. Est-ce que sa tête est mise à prix à partir du moment où l'entente entre le Canada, les États-Unis et le Mexique n'est pas nécessairement au profit du Canada?
C'est sûr que ça, c'est l'élément essentiel de l'évaluation qu'on va faire de Mark Carney. Mark Carney a rendu deux choses. A rendu d'abord le plat à la mode, parce que Mark Carney est cool en étant tout ce qu'il y a de pas cool. Je veux dire, c'est comme si au secondaire, tout d'un coup, tu prenais les nerds et tu les rendais les plus cools de l'école. J'aurais aimé ça à l'époque. mais l'autre élément que Carney amène, c'est super intéressant, c'est la question de la compétence. Parce que Mark Carney, lorsqu'on parle, par exemple, le document du Times hier, on reconnaît à Mark Carney au niveau international et au niveau canadien une compétence économique, celle d'un banquier, celle d'une personne qui comprend les enjeux économiques, les mouvements économiques. Il doit le démontrer. Il y a des gens qui ont l'impression qu'il l'a démontré en étant, par exemple, moins vocal sur la question de la CEOM, en utilisant, oui, Donald Trump comme étant le problème à régler au Canada. mais en n'étant pas pressé de régler avec Donald Trump. Alors qu'à un moment donné, on avait un certain empressement, là, on s'est rendu compte qu'on était peut-être mieux de rien toucher pour l'instant. Alors, ça, là-dessus, il y a des vases communicants où est-ce que s'il se met à négocier la CEOM, ce qui est prévu cette année, et que ça va mal, ben là, les sondages vont bouger extrêmement vite. Ça, c'est l'autre chose, c'est qu'un sondage, c'est une humeur. Et des fois, tu es de mauvaise humeur, puis deux heures après, tu es de bonne humeur. Puis ça, c'est pareil pour l'électorat. C'est l'humeur de l'électorat qu'on voit dans un sondage, et c'est pour ça que c'est aussi mobile. Puis pour finir avec Charles Millard, si toi, tu trouves qu'il a l'air sympathique, les gens trouvent la même chose à ce moment-ci, et étant donné qu'on est en préélectoral, c'est là-dessus qu'on se base, selon moi, pour lui donner des bons points.
Sondage Palace Data qui a été publié hier pour le compte de Québec 125 et l'actualité. Ça a été mené, ce sondage-là, le 13 et 14 avril auprès de presque 1000 répondants, donc précisément 956 personnes. Et juste après la nomination de Christine Fréchette comme nouvelle chef de la coalition Avenir Québec et, par défaut, première ministre du Québec. Est-ce que ça te surprend de voir que les libéraux continuent de prendre du galon et que le Parti québécois commence à descendre, puis en même temps, ben, voir que Christine Fréchette, actuellement, n'a aucun effet sur les intentions de vote?
Ça ne me surprend pas. Du côté de Christine Fréchette, commençons par la dernière partie de ta question, Yannick. Moi, je pense que la question, c'est est-ce que Christine Fréchette sera capable d'incarner le changement? Pour l'instant, je pense qu'elle arrive à un plancher. Le plancher est à peu près à 14-15% pour la CAQ à ce moment-ci. Est-ce qu'elle va être capable d'incarner un certain changement, par exemple, en amenant un ministre non élu, un nouveau visage, quelque chose de fort, en passant un message clair, en diminuant le Conseil des ministres? Ou est-ce qu'elle va reprendre une descente qui est celle qui amène la CAQ au 9% qu'on a vu dans un sondage précédent? Ça, pour l'instant, on est assis sur le plancher actuel et je pense que ça va prendre un certain temps avant que ça bouge, soit vers le haut, soit vers le bas pour Christine Fréchette. Pour ce qui est de Paul Saint-Pierre-Plamondon, on a une tendance qui se dessine. C'est que PSPP, à ce moment-ci, est redescendu aux alentours du 30%. Pour moi, le sondage, si on compare, les deux sondages sont sortis. Il y a le Palace Data d'hier et le Léger. On est à peu près dans la même zone. Alors, on est aux alentours du 30% à égalité mathématique avec les libéraux. Et du côté du PQ, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette espèce de... Le ton de Paul Saint-Plamondon semble avoir changé depuis le début de l'année. Il est un peu plus à l'attaque, il est un peu plus hargneux. Puis je trouve qu'il est un peu moins dans la force qu'il y avait des dernières années, qui était celle d'amener les sujets de tout le monde, de monsieur, madame, tout le monde.
Exact.
Là-dessus, je pense qu'il s'est perdu un peu. Alors, c'est ce que je vois dans ce sondage-là. Moi, j'ai l'impression qu'on l'entend plus sur ses sujets à lui, puisque c'est les sujets de monsieur, madame, tout le monde. Et pour ce qui est des libéraux, ben la CAQ a baissé, les libéraux ont monté. C'est simple de même, hein, c'est un vase communicant. Ce sondage-là, ce qui nous amène, c'est l'élément du Parti conservateur. Parce que dans la région de Québec, le Parti conservateur, puis l'échantillon est petit, donc il faudra faire attention, il faudra confirmer. Mais le Parti conservateur est 10 points d'avance sur le PQ. Et ça va changer la donne. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu ce genre de division-là au Québec. Alors là, on n'a pas un tiers parti, on a trois partis avec les deux partis qui sont en tête. On a le QS qui est encore à 10%, il faut quand même le considérer. On a les conservateurs et la CAQ à égalité. Dans la région de Québec, dans le 4-5-0, ça peut faire une différence énorme parce que c'est une division du vote qu'on a rarement vue et le taux de participation va devenir hyper important. Tout le monde va pouvoir se faufiler quelque part. Ça va nous donner une élection hyper excitante, mais pour les analystes et ceux qui aiment faire des prédictions, hey, bonne chance, gang, parce que ça va être compliqué.
Mettons qu'on prend la région de Québec pour Éric Duhaime, qui est très, très fort, comme tu le dis, il score à 34%. C'est très élevé. Ça lui a fait un beau cadeau de fête hier, c'est ce qu'il a mentionné sur ses réseaux sociaux. Est-ce que ça peut attirer des candidats peut-être un peu plus de qualité, des gens qui veulent s'assurer de gagner si jamais ils se lancent en politique?
Tout à fait, c'est exactement ça. Le premier attrait à ce moment-ci des sondages, c'est d'être capable d'attirer des gens de qualité, des gens qui perçoivent justement de faire partie d'une victoire, hein, parce qu'on ne veut jamais s'embarquer en politique pour perdre, et qui vont aussi amener à Éric Duhaime un appui un peu plus fort. Sans vouloir critiquer ceux qui sont présentés la dernière fois, parce qu'il y avait de très bons candidats pour les conservateurs à la dernière élection, ça va aussi aider Éric Duhaime à se défaire de la perception d'un parti pandémie anti-vaccin. Là, on va arriver avec un parti conservateur de droite qui va avoir des candidats qui vont parler d'économie, qui vont parler de santé, d'éducation. C'est là-dessus qu'il doit plancher. Il doit continuer ce travail-là, mais on voit dans la région de Québec que ça fonctionne. Ça va amener des gens de qualité, mais ça va amener aussi des gens de qualité ailleurs. Vous avez vu Farnell Morissette chez les libéraux dans Taschereau. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Hey, c'est bizarre. Moi, je ne me serais pas présenté dans Taschereau pour les libéraux à sa place. » C'est un candidat assez connu sur les réseaux sociaux. Et pourtant, quand tu regardes la division du vote, tu te dis « Ah, c'est peut-être pas fou, peut-être qu'il a vu que le vote allait se diviser, puis qu'il s'est dit « Ah, j'ai peut-être une chance ici. »
Victor, lettre ouverte de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui dans les médias. Bon, il parle de s'unir, il ramène à des discours d'Honoré Mercier. Est-ce un premier geste de panique?
C'est un premier geste de recentrage. Je n'appellerais pas ça de la panique, mais c'est clair qu'au PQ, on voit que ça glisse. Oui, l'unité, faut dire que Paul Saint-Pierre Plamondon a eu dans les derniers mois des espèces des élans de critique un peu. On l'a senti plus nerveux, plus émotif sur certains sujets. Donc oui, il y a un désir de se recentrer. Maintenant, excusez-moi messieurs, maintenant la grande question c'est est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon sera capable de prendre une décision définitive sur sa promesse de référendum? Parce que moi, je pense que c'est l'élément le plus central de la prochaine élection. S'il reste sur sa promesse de référendum, et là-dessus, il a été très clair avec ses valeurs d'ailleurs, mais s'il reste là-dessus, les Québécois pourraient glisser parce que les Québécois, eux, voient bien qu'on n'est pas dans un moment où est-ce qu'on veut de l'instabilité, et c'est ça que tous les adversaires vont mettre sur son dos. Alors, ça va être à cette pression-là qu'il devra répondre à ce moment-ci, et c'est là-dessus où est-ce que je ne sais pas si les décisions sont 100% prises au PQ, sur quel aliment on va prendre.
Est-ce qu'il devrait peut-être axer ses sujets sur les choses qui touchent les gens au quotidien plutôt que de penser à des gros projets de société, patati et patata?
C'est ce qui l'a amené à près de 40% dans les intentions de vote. Moi, je me rappellerai toujours de sa fameuse sortie sur le temps d'écran, où est-ce qu'il est sorti de nulle part avec ça et qu'à peu près tout le monde au Québec a fait « Hey, mon Dieu, c'est intéressant ». Puis il y a eu une commission sur le temps d'écran, puis on a interdit les cellulaires à l'école dans l'année qui a suivi. Il a été capable de nous amener des sujets auxquels toi puis moi, on pensait à tous les jours où qu'on vivait régulièrement. Et là-dessus, c'est ça qu'il a arrêté de faire. Il y a une chose, par exemple, c'est qu'avec la promesse de référendum, il y a tout un contexte pré-référendaire qu'il doit travailler. Et ça donne l'impression à certains que le PQ au pouvoir majoritaire ne serait pas le même gouvernement que le PQ minoritaire. Quand tu regardes le scénario actuel, c'est un PQ minoritaire en ce moment.
Victor, est-ce qu'on pourrait vivre vraiment une descente aux enfers pour le mouvement souverainiste? Puis je m'explique, Terrebonne vient d'être gagnée par les libéraux. Là, le PQ descend dans les sondages. Admettons que le PQ, finalement, ne forme pas le gouvernement puis que le Bloc mange une méchante volée contre Mark Carney dans 3 ans. Ça va être dur de ramener ce discours-là?
Ça va être dur de ramener le discours, t'as raison, mais tu sais, on a tellement enterré souvent, que ce soit le PQ, que ce soit le Bloc, que moi, à un moment donné, je pense aussi qu'il faut se rappeler qu'il y a un 25 à 30 % de base pour ces partis-là qui existent au Québec, qui va continuer à exister. Et ces partis-là auront toujours, et il y a des gens qui ont cette ambition tout à fait légitime de faire du Québec un pays, et ces gens-là vont toujours exister et se placer quelque part. La question, c'est seront-ils capables de gouverner à nouveau? Et ça, par exemple, c'est complètement autre chose. Maintenant, du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, il reste encore beaucoup de temps et il est encore dans une position de gagner l'élection. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention aux mouvements de panique puis aux gestes de panique, parce qu'en ce moment, son avance chez les francophones lui donne quelque chose de confortable. Celui qui peut battre Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est d'abord lui-même, dans sa façon de réagir, dans sa façon d'être dans la prochaine élection. En ce moment, quand il se fait critiquer, il est moins ouvert. Et ça, je travaillerai là-dessus, moi, à sa place.
Dernière question, il reste à peu près une minute ou deux, Victor Henriquez. Dans le cas de Christine Fréchette, elle veut amener du sang nouveau là, dans le cabinet des ministres. On veut aller chercher quelqu'un de l'extérieur. On sait que Guy Cormier de Desjardins a été approché. Pour les gens, on ne sait pas trop c'est qui, mais c'est le monsieur qui travaillait chez Desjardins avec la coupe de cheveux sur le côté puis les grosses lunettes là, qui était le boss chez Desjardins pendant des années et des années. Là, il est à la retraite. Il semble être un peu plus actif sur les réseaux sociaux qu'il l'était il y a de ça quelques mois. En fin de semaine, je regardais ses réseaux sociaux, je me disais, mais d'après moi, il se passe quelque chose. Finalement, il aurait refusé ce poste-là. Mais qui tu vois qui pourrait peut-être renverser une tendance? À l'époque, ça avait été fait avec François Legault qui avait été amené au cabinet des ministres alors que c'était un non-élu. Mais quelle personnalité pourrait renverser une tendance?
Moi, c'est venu me couper un peu l'herbe sous le pied quand Guy Cormier a dit non, parce que pour moi, c'était le personnage idéal. Pourquoi personnage idéal? Parce que le besoin de la prochaine élection pour Christine Fréchette, c'est d'aller se recentrer là où elle peut scorer. C'est là où est-ce qu'elle peut scorer? C'est dans le vote conservateur et dans le vote libéral. Parce que lorsqu'on voit le PQ à 30%, ça va être difficile pour elle d'aller rechercher les péquistes qui sont partis de la CAQ pour aller là-bas. Leur première étape, c'est d'aller chercher quelqu'un économiquement extrêmement fort. Et lorsqu'on regarde le caucus actuel, il y a des gens très, très bons, très, très intelligents. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'extrêmement fort en économie qui se représente à la prochaine élection? La réponse est non. Ce qu'il va aller chercher à ce moment-ci, si elle le trouve, bien sûr, c'est une personne à Guy Cormier dont la crédibilité économique est intachable, intouchable, et qui lui permet de passer un message là-dessus. Rappelons-nous de la méthode Carney, appelons-la comme ça. Mark Carney a gagné. Pourquoi? Parce qu'il était le plus crédible en économie dans un contexte économique complexe. Tous les partis vont courir après cette personne-là et celui qui l'obtiendra aura de fortes chances de gagner la prochaine élection.
Victor Henriquez, toujours un plaisir.
Merci, messieurs. Bonne journée. Merci.
Salut, bonne journée.
Bye-bye. Victor Henriquez, qui est chroniqueur politique. D'ailleurs, sa chronique sera disponible sur blvd.fm ou encore sur l'application Boulevard. Max, sur la route?
C'est pas mal habituel. Là, quelques difficultés pour l'accès aux deux ponts direction nord. Sinon, c'est vraiment sur Capitale-Ouest où il y a un ralentissement qui commence un peu avant Beau-Royal jusqu'à Laurentienne. Petit ralentissement. Capitale-Est. Auteur Robert Bourassa. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est tough comme d'habitude, comme sur Henri IV Sud, entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest.
Après la pause, Denis Gravel s'en vient pour le pit stop.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la